Walt Disney, 40 ans exactement, à un jour près après sa mort, le 15 décembre 1966. Parce que le dessin animé prend vie à l'écran, c'est du cinéma. Mais étant un dessin, c'est aussi un art comme la peinture. Walt Disney. D'histoire. On dit que c'est dans un train, quelque part entre New York et Hollywood, que Walt Disney inventa la souris la plus célèbre du monde. Avec ses grandes oreilles, sa culotte rouge à boutons dorés, ses grosses galoches blanches, avec Minnie, Pluto, Goofy et l'ineffable Donald Duck, Mickey eut tant de succès qu'il permit à Disney de construire un immense empire industriel qui compte aujourd'hui 7 parcs d'attractions, 27 hôtels, 10 chaînes de télévision, des magazines, une maison d'édition et bien sûr, 2 studios de cinéma. C'est là qu'entre 1928 et 1966, Disney a fait revivre sur les écrans des personnages que connaissent tous les enfants du monde. Blanche-Neige, Pinocchio, Alice au Pays des Merveilles, Dumbo, Bambi, Cendrillon, Peter Pan, et les animaux du livre de la jungle, la dernière réalisation de Disney avant sa mort il y a 40 ans, le 15 décembre 1966.
Au moment même où à travers les États-Unis s'allumaient les lumières des fêtes de fin d'année, le monde perdait un de ses derniers magiciens, Walt Disney. L'univers de Disney l'Enchanteur, c'était une carte de Noël. Un pays d'enfance où la complicité des animaux et des humains était celle qui devait régner au paradis terrestre. C'était aussi un univers de fantaisie, celui du dessin animé, auquel il reconnaissait des origines très lointaines et qu'il a marqué de son empreinte ineffaçable. C'est un peu grâce à Disney que la poésie populaire de Noël s'est enrichie de tant d'éclat et de gentillesse.
Bonjour.
Bonjour.
Alors ce sont, vous le savez sûrement, vous, les petites souris de Cendrillon, un des 13 longs métrages réalisés par Walt Disney de son vivant et que l'on retrouve dans votre livre L'âge d'or de Walt Disney, un livre que vous venez de publier aux éditions Démons et Merveilles, alors avec de magnifiques reproductions de dessins de tous les personnages de ces films. Est-ce qu'on peut dire, comme le disait Disney, on l'a entendu au début, que ces dessins, c'est un art? Parce qu'on a eu du mal, on a encore du mal parfois à considérer le dessin animé comme un art.
Écoutez, je pense que c'est un ensemble. C'est-à-dire que le dessin animé est un art pour moi à part entière parce qu'il réunit plusieurs arts, plusieurs formes d'art. La première, c'est le dessin, bien entendu, mais il y a aussi le mouvement, avec la danse, la musique, le cinéma, qui est aussi un art. Et donc, finalement, le dessin animé demande beaucoup, beaucoup de talent et réunit. Donc, c'est pour ça qu'il faut beaucoup de monde pour faire un dessin animé, parce que c'est un art très, très complet. Et effectivement, il suffit pas uniquement de savoir dessiner. Il faut aussi savoir raconter une histoire, savoir donner vie à des personnages. Voilà, c'est un art, pour moi, complet et passionnant et à découvrir, justement, parce que les gens ne se rendent pas compte tout le travail qu'il y a derrière un dessin animé, surtout un dessin animé de long métrage de Walt Disney.
Alors, si Walt Disney est peut-être le représentant le plus connu du dessin animé, c'est pas lui qui l'a inventé, hein, il faut le rappeler, Pierre Lambert.
Non, c'est Émile Reynaud, c'est une invention française. Émile Reynaud, qui est un ingénieur, a inventé en 1893 le théâtre praxinoscope, enfin, le projection du théâtre optique au musée Grévin. Il avait inventé le dessin animé avant tout le monde. D'ailleurs, il avait inventé aussi la pellicule cinématographique. Vous savez, la pellicule, elle est perforée. C'est lui qui a inventé le principe de perforer la pellicule pour pouvoir l'entraîner dans le projecteur. Et Émile Reynaud a dessiné tout seul des centaines et des centaines et des centaines de dessins pour pouvoir réaliser ces dessins animés qu'il projetait lui-même au musée Grévin avec un pianiste qui accompagnait. Et donc, c'était le pionnier du dessin animé. Et d'ailleurs, Walt Disney admirait Émile Reynaud. Il y a une photo photo très émouvante d'ailleurs, où on voit Walt Disney devant le théâtre optique de Reynaud, et c'était en présence du fils d'Émile Reynaud.
Alors il est fasciné par le dessin en particulier, par le dessin animé en général. Il a aussi, vous le rappelez, une enfance quand même très difficile, qui explique peut-être ensuite les choix des films qu'il fera. C'est une enfance très malheureuse. Il est né en 1901 à Chicago, mais alors une mère qui abandonne sa famille, et notamment Disney et son frère, un père brutal, c'était terrible ça. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de ça dans le choix qu'il fera ensuite de...
Alors, je crois que dans toutes les enfances difficiles, il y a ensuite un besoin, il y a aussi un besoin de s'évader immédiatement et de se prouver qu'on peut arriver à faire quelque chose. Et Walt Disney, il vivait à la campagne, hein, c'était à Marceline, c'était une petite ferme, et donc entouré d'animaux évidemment, et je pense que c'est pas innocent si ensuite dans ses films, les animaux ont une part très très importante, à la fois dans les choses qu'il apportait au film. Par exemple, Cendrillon, il faut bien savoir que dans le conte de Perrault, les souris n'existent pas, le chat Lucifer non plus, donc il apportait des personnages nouveaux, et je pense que c'est lié à cette enfance à Marceline. Et puis il y a aussi vous savez, son petit village, j'ai vu des photos, c'est étonnant parce qu'on dirait le décor de La Belle et le Clochard en 1955. Donc je crois qu'il s'est inspiré de cette enfance, et puis après il a évidemment rencontré des artistes qui lui ont permis de développer tout ça, mais je crois que c'est par-delà quand même, c'est vrai que c'est important.
Est-ce que ça part aussi de lecture sans doute, je suppose, que parce qu'il n'est pas non plus celui qui a inventé le fait de faire parler des animaux, même des plantes d'ailleurs. Ça existait avant lui. D'abord, dans le dessin animé, il y a eu Félix le Chat, hein, qui est antérieur, je crois. Puis surtout, ses lectures, les Fables de La Fontaine, Benjamin Rabier.
Oui, alors les Fables de La Fontaine, Benjamin Rabier, les Contes de Perrault, les Contes de Grimm. D'ailleurs, il avait réalisé un film de Perrault, donc Cendrillon, une petite version de Cendrillon, dès le début des années 20, lorsqu'il débutait à Kansas City avec Hubby Verck, son associé. Il avait déjà fait un petit dessin animé de Cendrillon. Puis après, évidemment, il a découvert en 1935, lors d'un voyage à Paris et en Europe, qu'il y avait plein de livres à découvrir. Et là, il a ramené toute une librairie au studio et il a découvert, évidemment, les Contes de Grimm, les Contes d'Andersen. Et bien d'autres.
Alors il commence à faire ses tout premiers dessins animés en 1920. Il va inventer un personnage antérieur à Mickey, Oswald le lapin, hein, une idée d'ailleurs qui lui est volée par un producteur indélicat. Et c'est la raison pour laquelle il cherche un nouveau héros et qu'il a l'idée d'une souris grâce à laquelle il va faire fortune à partir de 1928 et à laquelle il va lui-même prêter sa voix, Mickey.
It's a cinch. Watch me. See? There's nothing to it. Hey, fellas, there's a woman up there. Come on.
I'm the guy they call Little Mickey Mouse. Got a sweetie down in the chicken house. Need a trap nor skinny king of horses. When he sees my little Minnie Mouse.
Alors c'était un des tout premiers Mickey, c'est pas Mickey, c'est Walt Disney lui-même qu'on entend.
Oui, c'est Walt Disney qui chante, c'est un court-métrage appelé Mickey's Follies de 1929, un des tout premiers Mickey, et Walt Disney chante, vous savez, il faisait la voix de Mickey depuis Steamboat Willie, sauf que dans Steamboat Willie, on entend juste murmurer...
Le tout premier,
oui, qui est sorti au cinéma en 1928, décembre 1928, et là, il faisait quelques borborismes hein, dans Steamboat Willie, alors que là, il chante complètement la chanson, et d'ailleurs, Walt Disney faisait aussi la voix de Minnie, on ne sait pas non plus, et il a fait la voix pendant des années, il y a quelques exceptions, il n'était pas disponible pour faire les voix, mais il a fait la voix de tous les Mickey, en particulier de tous les Mickey des années 30.
Alors je sais pas s'il savait en 1928, date du tout premier Mickey, le succès qu'il aurait, mais alors c'est intéressant de savoir comment l'idée lui est venue.
Alors vous savez, l'idée lui est venue en revenant de cette déconvenue à New York où on lui a voler le personnage d'Oswald le Lapin, et donc il revenait dans le train avec sa femme et il cherchait de nouveaux personnages. Alors vous savez, il y a une légende, sa fille raconte qu'il l'a dessiné en train, c'est assez faux. En réalité, il a eu l'idée de faire une souris parmi d'autres personnages, un chien, un chat évidemment il pouvait pas, il avait fait X le chat, et donc il est revenu à Los Angeles. Lorsqu'il est arrivé, il a appelé son associé Hubby Verck, qui était le dessinateur du studio, animateur formidable, et ils se sont réunis, c'était un après-midi du printemps 1928, et ensemble ils ont travaillé à la création de personnages. Et là, ensemble, ils ont créé, alors Hubby Verck a dessiné évidemment, c'est lui qui était le dessinateur, mais Walt Disney a apporté les idées, ils ont créé Mickey, Minnie, Clarabelle la vache, Horace le cheval et Flip la grenouille. Et à la fin de la réunion, Walt Disney a dit à Hubby Verck, écoute, prends un des personnages, choisis un des personnages, tu garderas les droits de ce personnage. Et il a choisi Flip la grenouille. Et quelques années plus tard, Ruby Verks prendra ce personnage pour réaliser des dessins animés à son compte. Mais Walt Disney lui a donné l'opportunité s'il avait voulu de prendre Mickey. Ça, c'est très intéressant. C'est le fils
Parce que c'est Ruby Verks, hein, son ami, son associé, qui a dessiné le premier Mickey. En fait.
Ah oui, c'est lui qui a dessiné le premier Mickey. D'ailleurs,
tout le monde a oublié ce pauvre Ruby Verks.
Oui, pas Walt Disney, puisque lorsque son studio a fait faillite à Ruby Verks en 1938, Walt Disney l'a repris au studio. Il s'occupait des effets spéciaux. Et ils sont restés très amis jusqu'au bout, et ils étaient très 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 amis, très liés, les familles Disney et Iverse, parce qu'ils ont en fin de compte eu le succès ensemble, mutuellement. C'était indispensable d'être ensemble, parce que Walt Disney avait des idées, et il savait qu'il pouvait compter sur Iverse. Et justement, le problème du Iverse, il le prouva quelques années plus tard avec les Flips la grenouille, c'est qu'il ne savait pas raconter une histoire, ce que Walt Disney savait faire merveilleusement.
Alors, il va faire beaucoup de Mickey, ce sont d'ailleurs tous des courts-métrages, hein, comme tout ce qu'il a fait jusqu'en 1937, date à laquelle, eh bien, Disney réalise quelque chose de beaucoup plus ambitieux, le premier long métrage de l'histoire du dessin animé, Blanche-Neige et les Sept Nains.
Mais vous êtes de petits hommes. Je sais, je crois que tu es prof.
Eh ben oui, oui, c'est très très juste.
Et toi, tu es timide.
Oh, oui.
Tu es la tchoum.
Joyeux, mademoiselle, c'est moi. Et lui, c'est Simplet. Il a donné sa langue au chat.
Il ne faut pas parler. Oh, toi, tu dois être grâcheux.
Hein? Comment je vais faire? Que fais-tu? Qui es-tu, ma jolie?
Que je suis donc bête. Je suis Blanche-Neige.
Blanche-Neige, la princesse.
Oui.
Hé ho, hé ho.
C'était les sept nains de Blanche-Neige. Vous avez sûrement remarqué, Pierre Lambert, vous qui êtes un spécialiste, qu'il en manquait un. Il y en a eu six qu'on a entendu.
Ah bah oui, Simplet ne parlait pas, vous savez.
Eh ben non, le nom de Simplet, non, c'est Dormeur qui était absent de la liste, oui. Alors, ça a été un triomphe, hein, 1937, un triomphe absolu, et une entreprise, alors un triomphe, ça, Disney s'y attendait pas parce qu'il avait très peur. C'est une entreprise considérable. On oublie même aujourd'hui qu'un dessin animé, ça demande infiniment plus de travail et de temps qu'un film ordinaire.
Oui, il faut savoir que le dessin animé, c'est comme le cinéma, c'est 24 images par seconde, ça veut dire, on fait la multiplication, 1440 images par minute et autant de dessins. Donc lorsqu'on fait un dessin animé comme le Blanche-Neige et les Sept Nains, il faut faire environ 1 million de dessins. Il y a plus de 700 personnes qui travaillent sur le film, il y a plein de métiers différents. Par exemple, pour faire rien que les décors du film, il y a toute une équipe de décorateurs, une dizaine de personnes qui peignent les fonds, il faut en faire 800. Alors l'animation, c'est absolument considérable. Un animateur, il fait en moyenne 1 ou 2 secondes d'animation par jour. Donc, lorsqu'on donne vie, par exemple, au personnage de Grincheux, Bill Titla, qui était l'animateur, avait plusieurs assistants avec lui, toute une équipe, et pour pouvoir réaliser tous ces dessins. Le dessin animé, c'est un travail énorme. En plus, ces dessins, une fois dessinés au crayon, on doit les reporter sur des feuilles de plastique transparentes à la plume, donc c'est tracé par des centaines de traceuses et gouacheuses, et puis ensuite, ces dessins sont filmés. Enfin, c'est très très compliqué, sans oublier les effets spéciaux. Donc, il faut savoir que c'est un travail considérable. Il a fallu 4 ans pour réaliser Blanche-Neige. Et
c'est le premier, différent. C'est pour ça que c'était aussi le premier long métrage, personne n'avait osé se lancer là-dedans. D'ailleurs, Disney était très angoissé, je crois qu'il a investi d'abord tout ce qu'il avait gagné avec Mickey, avec les Mickey, et puis même je crois qu'il avait mis en gage sa voiture, enfin c'était un pari énorme qu'il faisait, il avait très peur, hein, je crois, veille de la première projection de Blanche-Neige.
Oui, il avait très très peur parce qu'il avait investi tous ses fonds et même plus pour pouvoir terminer le film. Il y a même une séquence très connue qui est la soupe des nains qui était faite en animation au crayon mais qui a jamais été mise en couleur. Walt Disney a toujours déclaré que c'était parce que ça ralentissait le rythme du film, et compte tenu que la séquence est formidable, en réalité c'est parce qu'il avait plus d'argent pour la mettre en couleur. Donc effectivement, il était très angoissé. Tout le monde lui disait que ça allait être formidable, mais en même temps, il y avait eu tellement de critiques au départ de la production qu'il avait quand même quelques doutes. Et puis ça a été un succès considérable immédiat. Les gens ont été enchantés. Il faut savoir qu'au début de la production, les gens pensaient pas qu'ils allaient rester 1h30 devant un dessin animé. Ça pensait absolument, c'était inimaginable.
En projection, vous voulez dire, oui.
En projection, oui. On pouvait pas rester aussi longtemps devant un dessin animé. Les gens étaient habitués à voir des films de 7 minutes, 7 minutes 30. Donc, c'était vraiment révolutionnaire pour l'époque.
Alors, révolutionnaire aussi. Alors, c'est une équipe, hein, vous l'avez rappelé, Pierre Lambert. Là, il n'est plus question de 2-3 personnes, comme c'était le cas de Disney avec Ubiverx et quelques collaborateurs. Là, c'est une vraiment... Il devient un chef d'entreprise. Il dessine plus, d'ailleurs, à ce moment-là, Disney.
Non, d'ailleurs, il arrête de dessiner même avant la création de Mickey, en réalité, parce que il fallait évidemment superviser le studio, former les gens, et puis ce qu'il passionnait, c'était la mise en scène et raconter une histoire. C'était ses deux premiers talents. Donc, Walt Disney, effectivement, à cette époque-là, supervisait les films, visionnait tous les line tests, tous les essais d'animation, toutes les séances de travail concernant les scénarios, c'est-à-dire le storyboard, étaient faites avec Walt Disney. D'ailleurs, il y a des mémos qui sont très détaillés, où Walt Disney apporte plein d'idées, tout le monde peut en témoigner. Et effectivement, là, c'est un travail de chef d'orchestre, parce qu'il doit trouver à la fois les gens compétents pour pouvoir faire ce qu'il veut faire, et en même temps superviser un film de plus de 1000 plans. Donc c'est un travail absolument considérable.
Et puis trouver les idées. Alors les idées, elles viennent d'Europe. En réalité, il n'a pas inventé les personnages de Blanche-Neige et plus tard de Alice au Pays des Merveilles ou de Peter Pan. Ils viennent tous des contes qu'il a été chercher ou qu'il a découvert en Europe.
Oui, c'est inspiré des contes. Alors, il adorait les contes d'Andersen, les contes de Grimm, les contes de Perrault, les fables de La Fontaine, bien entendu. Et alors, ce qui est très fort dans ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est approprié les contes. C'est-à-dire qu'il a, pour prendre un exemple pour Blanche-Neige et les sept nains, la reine...
Des frères Grimm, hein,
des frères Grimm,
oui.
Les frères Grimm, la reine empoisonne Blanche-Neige avec un peigne empoisonné, et non pas avec la pomme. La pomme arrive qu'après. Donc, à chaque fois, il modifie complètement les histoires originelles. Les nains, en réalité, n'apparaissent pas sous la forme qu'on les connaît, avec une personnalité. C'est simple, il y a le nom des nains simplement sur leurs vêtements. Donc Walt Disney a l'idée de donner aux nains presque, je vais pas dire le rôle principal, mais quasiment. Et donc ça, c'est des apports considérables, des modifications considérables des contes. Alors évidemment, on peut créer au scandale. Bon, il suffit de relire les contes originaux pour pouvoir les apprécier.
Mais presque tous viennent d'Europe, hein. Donc Alice au Pays des Merveilles, c'est Lewis Carroll, Peter Pan, James Barry, Pinocchio, Carlo Lorenzini, un romancier italien, Le Livre de la Jungle, qui sera son dernier avant de mourir. C'est évidemment Kipling. C'est une passion, hein, qu'il a pour l'Europe. Pourquoi est-ce qu'il va pas chercher ses idées, je sais pas, moi, dans les westerns, au fond, après tout?
Non, il est passionné par la culture européenne. D'ailleurs, il voyageait très régulièrement en Europe. Tous les ans, il venait visiter différents pays d'Europe. Puis ses contes étaient très riches, hein. Il ne trouvait pas l'équivalent aux États-Unis. Ensuite, il s'est dirigé seulement dans les années 50 vers des sujets américains comme La Belle et le Clochard. Mais en réalité, il était vraiment fasciné par les contes. Et puis les contes font rêver, parce que vous avez tous les ingrédients pour faire un dessin animé. Il faut bien savoir qu'il faisait du dessin animé et que les contes se prêtent très très bien au dessin animé.
Ben, il faut rêver aussi bien, d'ailleurs, les petits que les grands. On écoute justement Walt Disney en 1938 expliquer le succès de ses films.
Everybody in the world was once a child. We grow up, our personalities change.
Tout le monde a été enfant. On grandit, notre personnalité change. Mais il reste toujours en chacun de nous une part d'enfance. Cette part où nous sommes simples, naïfs, sans préjugés, sans vices et pleins de confiance. C'est pourquoi quand nous travaillons sur un nouveau film, nous ne pensons pas aux adultes, mais aux enfants. À cette part belle, propre, intouchée, que nous avons en chacun de nous, cette part que le monde nous a fait oublier et que peut-être notre film peut réveiller.
What did you say? Hey, we can do it! We can do it! We can do it! We can help like in the valley! We can make the dress so pretty! There's nothing to it really! We'll tie a sash around it, put a ribbon through it! We're dancing at the ball, you'll be more beautiful than all in the lovely dress!
Alors, ce que disait Disney à l'instant pour expliquer le succès de ses films, Pierre Lambert, il explique pourquoi il séduise aussi bien les enfants que les parents, au fond, d'une certaine manière. Il n'y a pas que les enfants qui s'intéressent aux dessins animés de Disney.
Non, il le disait lui-même, des films pour tout public. Et je crois qu'une des raisons de ce succès, c'est qu'on pouvait s'identifier aux personnages. Il a compris très très tôt qu'il fallait donner une personnalité, développer une personnalité à ces personnages qui n'existent que sur la feuille de papier. Et donc, il a demandé à ses animateurs de développer développer cette personnalité par l'animation. Et effectivement, lorsqu'on voit par exemple un personnage comme Jiminy Cricket, on a l'impression qu'il existe. Et là, c'est la personnalité de l'animateur, Ward Kimball en l'occurrence, qui a apporté toutes ses idées, toute sa personnalité à ce personnage. Et en fin de compte, Jiminy Cricket, il est aussi vivant qu'un comédien en prise de vue réelle.
Oui, mais vous-même, vous étiez déjà venu nous parler de Disney. Vous m'avez dit que votre premier Disney, c'était à 4 ans. Alors, on peut comprendre qu'un conte mis en dessin, animé, puisse fasciner un enfant. Est-ce que le fait que ça fascine un adulte, l'adulte que vous êtes devenu, comme moi, qui suis passionné par ces films, c'est pas aussi... Est-ce que c'est la recherche de l'enfance ou de cette part d'enfance qu'on a gardée au fond de nous-mêmes?
Ah, je crois qu'on a... Il y a une chose intéressante, c'est qu'on a tous un Disney. Le premier qu'on a vu qui nous a traumatisé d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire avec le plaisir, avec la peur, avec l'émotion,
oui,
bien sûr.
Hein,
tout l'émerveillement, tout est réuni. Et donc, on a ce souvenir de l'enfance, de ce premier Disney. Déjà, il y a une chose importante. Et puis, l'univers de Disney, c'est le souvenir de l'enfance. Donc, il y a les deux en parallèle. Il y a le Disney qu'on a vu enfant, auquel on est très attaché. Et quand je rencontre des gens, ils ont tous un Disney différent préféré. C'est pas parce que c'est le meilleur, c'est parce que c'est celui qu'ils ont vu en premier. Et puis ensuite, il y a l'univers. Et donc, tous ces personnages qui n'existent pas, qui ont été inventés par des animateurs et auxquels on croit complètement. Et ça c'est la force de Disney par rapport aux autres dessins animés. C'est que les personnages de ces dessins animés, on croit qu'ils existent.
Et animé tout ça par le chef d'une entreprise considérable, Walt Disney, dont on dit qu'il n'était pas très marrant au boulot. Il y a une anecdote, il paraît qu'un jour, pour son 35e anniversaire, les dessinateurs du studio Disney dessinent un Mickey qui montre autre chose à Minnie que ses oreilles, c'était quasiment un X. Alors il se met à rigoler comme ça, et puis il dit « qui a fait ça ?» Et puis quelqu'un dit « bah c'est moi », et hop, il le vire. C'était pas un rigolo, il n'y a pas beaucoup d'humour, il était plutôt exigeant comme patron.
Ah oui, c'est clair. D'ailleurs, tous les gens qui l'ont rencontré, que j'ai pu rencontrer, tous les anciens animateurs me le disaient, il était passionné, mais il fallait faire très attention à ce qu'on faisait, parce que il était soucieux de l'ordre. Faut dire que quand on gère 700 personnes, ça doit pas être évident non plus tous les jours, surtout des artistes avec des personnalités très différentes. Et donc, il était effectivement assez difficile, assez colérique. Et bien après, il s'excusait très vite. Par contre, il y a une chose intéressante, c'est que tous ces anciens animateurs que j'ai pu rencontrer, et ils sont tous très admiratifs de Walt Disney, très respectueux, et ils m'ont tous dit la même chose. Ils m'ont dit, on a pu faire ce qu'on aimait faire pendant toute notre carrière, et ça, c'était vraiment formidable de pouvoir développer le dessin animé en tant que forme d'art.
Patron exigeant, autoritaire, patron aussi très conservateur. Hein. Il a été étroitement mêlé au macartisme, et disons plutôt du mauvais côté. Hein. Il a participé aux activités de la commission des activités anti-américaines.
Oui, c'est juste.
Très anticommuniste,
Disney. Il a basculé en réalité après la grève de son studio en 1941, il y a eu une grève très dure au studio, et à partir de là, il est devenu vraiment conservateur, alors qu'avant, pas du tout. Vous savez, c'est une petite entreprise familiale avec 10 personnes au tout début, puis après, en augmentant, évidemment, les problèmes sont arrivés, et c'est vrai que dans les années 50, il était vraiment très conservateur, et donc, effectivement, ça devait pas être simple tous les jours pour les artistes de travailler avec lui.
On est même un peu raciste, il n'y a pas beaucoup de noirs dans son équipe ou dans ses films.
Oui, alors ça, je suis moins convaincu de cette chose-là, parce que justement, j'ai demandé à des anciens artistes du studio ce qu'ils en pensaient, et tous m'ont dit la même chose, alors qu'eux-mêmes, ils ne s'entendaient pas entre eux, donc c'était intéressant. Mais c'est certain qu'il ne devait pas être facile tous les jours.
En tout cas, pas de noir dans son équipe, encore moins dans ses films, comme Blanche-Neige, Pinocchio, Fantasia, Dumbo, Bambi, Cendrillon, ou Alice au Pays des Merveilles, qu'il venait présenter à Paris en 1951 au micro de Liselina.
Eh bien, Walt Disney, le producteur et l'auteur de Dumbo, de Bambi, de Alice au Pays des Merveilles, est à Paris. Combien de personnes travaillent pour vous à Hollywood? How many people are working for you in Hollywood?
700 at this moment. About 300 of the 700 are artists.
700 artistes travaillent pour Walt Disney, mais 300 seulement sont de véritables dessinateurs qui travaillent uniquement pour lui.
I'm working at the moment, I've just finished the Alice in Wonderland. So at the moment I'm working, the new film is all cartoon of Peter Pan.
Ah oui, son nouveau et dernier film qui est en projet et en travail en ce moment, c'est Peter Pan, c'est-à-dire le petit garçon qui ne veut pas grandir.
Peter Pan! Je suis si heureuse que tu sois revenu ce soir. J'aurais pu ne jamais te rencontrer.
Pourquoi?
Parce que je dois commencer à grandir demain.
À grandir?
C'est ma dernière nuit dans la chambre d'enfant.
Non! Non, je ne veux pas! Suis-moi!
Mais où est-ce qu'on va?
Au pays imaginaire.
Au pays imaginaire?
Le pays où on ne grandit jamais.
Oh, Peter! Ça serait vraiment merveilleux.
Le petit garçon qui ne veut pas grandir, c'est Peter Pan. Vous dites aussi que c'est Disney, au fond.
Oui, bien sûr. Ben, évidemment, Peter Pan, d'ailleurs, il a voulu le réaliser très tôt, dès 1939. Et puis, avec les événements, avec la Seconde Guerre mondiale, il n'a pas pu le réaliser tout de suite. Il l'a réalisé qu'en 1953. Mais c'est vrai que Peter Pan, c'était vraiment un sujet qui lui tenait à cœur. On retrouve d'ailleurs une des premières éditions de Peter Pan dès 1935. Parce qu'évidemment, c'est le rêve de l'enfant, le besoin de s'évader. Et autant je trouve le film pas très réussi artistiquement, autant l'animation est formidable. Mmh. Et le développement des personnages comme le capitaine Crochet, la fée Clochette, sont très réussis.
On le voit, il fait partie des films, enfin des dessins que de votre livre Walt Disney. Je dois, c'est vraiment un très très beau livre. Alors évidemment, il n'y a pas autre chose quand même qui apparaît à ce moment-là. Les studios Disney fabriquent aussi des films ordinaires, des grands films d'aventure et pas les moindres. Hein, oui. Davy Crockett et surtout 20 000 lieues sous les mers. Là, c'est du coup, on va chercher là encore en Europe l'inspiration auprès d'Jules Verne.
Oui, 20 000 lieues sous les mers. Et puis on peut aussi rajouter Mary Poppins en 1964, hein, qui est une histoire anglaise. Donc c'est vrai que Walt Disney aimait aussi beaucoup les animaux. On en a parlé avec son enfance. Et donc il a réalisé des documentaires dans les années 50 très réussis, qui étaient vraiment innovateurs pour l'époque. Et puis quelques films en prise de vue réelle, avec plus ou moins de succès quand même. Mais le 20 000 sous les mers reste quand même un des grands films du cinéma.
Et puis alors il inaugure aussi une nouvelle activité très importante. En 1955, le premier parc d'attractions inauguré en Californie. Mais l'idée est très ancienne, elle remonte loin. À quoi ça correspond? La volonté de faire de l'argent, une espèce de produit dérivé ou une idée particulière qu'avait Disney?
Non, c'est une idée qui lui tenait à cœur parce que lorsqu'il était enfant, il avait été à une fête foraine, hein, c'était une sorte de Luna Park, et il trouvait ça dommage que les attractions soient aussi rudimentaires. Et donc il a en réalité il est parti de là en se disant il faudrait que je crée un propre univers, mais avec des attractions en dur qui permettent de faire des choses beaucoup plus spectaculaires, beaucoup plus considérables. Et donc c'est comme ça qu'est partie l'idée de Disneyland. Et comme il avait quand même eu beaucoup de succès avec ses films, donc il avait un ensemble de personnages et de sujets suffisants pour créer un premier parc d'attractions. C'est pour ça qu'il a commencé à travailler dessus à partir de 1951, en même temps qu'il travaillait sur Alice au Pays des Merveilles. Et le parc a été ouvert en 1955, en même temps que La Belle et le Clochard sortait sur les écrans.
Et il imagine, mais il le verra pas de son vivant, puisqu'il est mort en 66, le parc qui va être construit en Floride, puis les autres, ensuite à Tokyo, en France en 92. Est-ce que cette multiplication des activités a changé un peu la nature, l'esprit de ce qu'était Disney auparavant? Est-ce que les choses ont beaucoup changé justement auprès de lui, enfin dans l'entourage auquel il a légué son empire après sa mort en 66?
Écoutez, moi j'ai l'impression que oui, dans le sens où Walt Disney pour moi était ça va peut-être faire sursauter certains, un auteur. Il avait son propre univers, son propre monde, sa façon de voir les choses, en particulier le dessin animé. Et donc à partir du moment où il a disparu, il n'y avait plus finalement le chef d'orchestre pour diriger les films et diriger le reste. Et donc ensuite cette entreprise commerciale considérable a continué de se développer avec des succès, avec des échecs comme toute entreprise. Mais disons que l'esprit de Walt Disney n'est plus là depuis 40 ans finalement. Et d'ailleurs ses collaborateurs en témoignent tous parce que justement il apportait les idées que n'apportent pas les autres aujourd'hui.
Depuis l'âge d'or, hein, puisque c'est le sous-titre de votre livre magnifique, Pierre Lambert, Walt Disney, l'âge d'or, publié chez Démons et Merveilles, un très beau livre, une bonne idée de cadeau pour Noël. À lire également le Télérama hors série consacré à Disney, à voir aussi l'exposition Il était une fois Walt Disney aux sources de l'art des studios Disney qui se tient actuellement au Grand Palais à Paris jusqu'au 15 janvier 2007. Vous avez contribué au catalogue de cette exposition publiée aux éditions de la Réunion des musées nationaux. Enfin, j'ajoute un documentaire Il était une fois Walt Disney de Samuel Doux, sorti à l'occasion de cette exposition et disponible en DVD aux éditions de la Réunion des musées nationaux et Arte France. Vous avez pu entendre des extraits de nombreux dessins animés de Walt Disney, tous disponibles en DVD aux éditions Disney. Je crois qu'à l'exposition du Grand Palais, on pourra voir aussi des films.
Oui, absolument, c'est important. On peut voir pour la première fois depuis très longtemps en 35 mm Blanche-Neige, Pinocchio et Fantasia à l'auditorium, et c'est en entrée libre en plus.
D'accord. Et puis alors, des informations donc sur notre émission, parce que j'en ai donné beaucoup en peu de temps, sont disponibles, vous le savez, par téléphone au 32-30, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Ludovic Asselot et Antoine Viossa. Documentation et archives sonores Claire Destacan, Emmanuel Fournier et Léna Le Bourdonnec. Une réalisation de Anne Kobilac.